archives de l'écologie. François Bernard.
Bonjour, merci de nous accueillir à l'écoute des archives de l'écologie. Non, la communauté humaine ne se contente pas de polluer la planète qui l'accueille et la fait vivre. L'espace qui entoure la Terre est lui aussi rempli des débris issus de notre activité spatiale. Les fusées, les satellites en fin de vie deviennent des débris potentiellement très dangereux pour tous les engins mis en orbite, pour nos besoins en recherche, en télécommunication, en renseignement. La Terre a besoin de l'espace qui l'entoure et cet espace est un bien commun de l'humanité. Alors comment limiter la multiplication des débris et comment gérer l'énorme quantité qui existe déjà ? Le problème se posait en 2002, évoqué par Fréquence Terre, cette émission de RFI sur l'environnement dont les archives alimentent notre réflexion sur les problématiques écologiques actuelles. Écoutons quel était l'état des lieux il y a 24 ans et nous verrons juste après si des progrès ont été accomplis en matière de prévention et de gestion de cette pollution, certes invisible, mais qui fait planer au-dessus de nos têtes un danger réel pour les habitants de la Terre et les futures générations. On se retrouve dans 20 minutes.
Fréquence Terre. Arnaud Jouve.
Bonjour à tous, destination l'espace, dans l'environnement immédiat de notre planète, là où nous envoyons la plupart de nos fusées en orbite autour de la Terre.
6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage. Tous les paramètres bord sont normaux, décollage. Le satellite télécom 2D a été acquis par la station de Artsibichu.
Comme un océan qui nous entoure, l'espace marque une frontière qui nous démarque du reste de l'univers. Depuis toujours, les hommes ont regardé le ciel et les étoiles, et depuis peu, nous arrivons à nous projeter dans cet environnement, au-delà de l'atmosphère. À part une douzaine d'hommes qui ont pu aller sur la Lune, ou quelques vaisseaux inhabités, partis explorer notre système solaire et ses planètes, la plupart de nos voyages dans l'espace consiste surtout, pour l'instant, à se mettre en orbite autour de la Terre ou à y placer toutes sortes de satellites. Une activité en plein développement, même si elle n'est pratiquée que par quelques pays du monde. Mais on a quand même réussi à créer une pollution déjà difficile à rattraper. Une conquête de l'espace que nous présente l'astrophysicien Roger Maurice Bonnet, l'ancien directeur des programmes scientifiques de l'Agence spatiale européenne.
La conquête de l'espace, elle était dans l'esprit des hommes depuis toujours. Aller sur la Lune, aller au-delà des horizons qui marquent notre firmament a été une ambition permanente de l'homme. Elle est devenue possible grâce aux mathématiques, à la mécanique céleste et surtout à la technologie des engins qui ont été mis au point en Russie par Korolev, aux États-Unis par Goddard et en Europe surtout par Von Braun. Donc, dès que ces technologies ont été possibles, elles ont été utilisées malheureusement à des fins militaires. La conquête de l'espace telle que nous la connaissons aujourd'hui, elle a démarré essentiellement par une domination militaire d'un pays sur l'autre. Ce n'est pas étonnant que c'est au milieu de la guerre froide que cette technologie se soit développée aussi puissamment. Donc voilà les conditions dans lesquelles elle a démarré. Mais très rapidement, l'homme s'est rendu compte, l'humanité tout entière s'est rendu compte des bienfaits que cette technologie pouvait apporter. Pas seulement pour l'observation de son ennemi, mais pour l'observation de la planète, pour la gestion de ses ressources, pour l'observation de ses modifications, soit anthropologiques, soit naturelles. C'est quand même la planète sur laquelle on vit. C'est une planète dangereuse, il faut le savoir. Et donc, il faut la surveiller. Et ça, c'est les outils de l'observation spatiale à partir de l'orbite au-dessus de 300 km et au-delà. Et puis, l'homme a tourné son regard plus loin et en s'élevant au-dessus de l'atmosphère, il a, de la Terre, il a pu observer observait toute la lumière du ciel, alors que jusqu'alors, il ne l'observait qu'à travers les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais le spectre, comme on l'appelle, les couleurs du ciel sont bien plus vastes que seulement ces couleurs de l'arc-en-ciel. Et quand on regarde l'univers à travers ces couleurs-là, on découvre des phénomènes qu'on n'imaginait pas. Donc, une explosion de connaissances est évidemment la porte ouverte sur le rêve. Le vol de l'homme dans l'espace a été, là encore, essentiellement déclenché par des considérations de prestige national ou de conquête presque militaire, je dirais, ou en tout cas conquête technologique. Mais ça nous fait rêver aussi. Est-ce que l'homme va finalement pouvoir s'éloigner de la Terre et vivre ailleurs que sur Terre ? Une Terre qu'on connaît mètre carré par mètre carré, et presque cheveux par cheveux. Un des problèmes évidemment que pose la conquête de l'espace, c'est l'envoi dans l'espace de quantités faramineuses, industrielles, de débris spatiaux. Alors, le danger vient surtout des débris qu'on a envoyés au début, lorsque l'on ne faisait pas attention à ce problème-là. L'espace était illimité, infini, donc peu importe. Et là, je dois dire que si les Soviétiques nous ont impressionnés par leur prouesse au début, ils nous impressionnent aujourd'hui par les déchets qu'ils ont laissés dans l'espace, car les orbites les plus polluées aujourd'hui sont celles où ont volé la plupart des satellites russes qui montaient sur des orbites assez hautes. Et ces orbites hautes ne se nettoient pas, comme on dit dans le jargon technique, naturellement. Une orbite se nettoie quand les débris ou les satellites qui y sont placés pénètrent dans l'atmosphère et se trouvent freinés et donc brûlent. Plus on va loin de la Terre, moins il y a d'atmosphère et moins les chances de voir ces débris se consumer existent. Et donc, nous avons des orbites qui sont extrêmement sales, aux alentours de 1000 km d'altitude, 1300 km d'altitude. Et même les Européens, au début, ont lancé des satellites avec les fusées Ariane qui, en fin de propulsion, laissaient des explosions incontrôlées peupler l'orbite de débris. Les Européens ont pris très vite la mesure corrective de ces problèmes en éliminant tous ces déchets, en faisant en sorte qu'il n'y ait pas d'explosion en fin de propulsion et en nettoyant les orbites elles-mêmes naturellement. Donc nous sommes aujourd'hui dans une phase où on a pris conscience du problème et on a tellement besoin de l'espace pour survivre, notre civilisation a besoin de l'espace pour survivre, que nous devons faire attention à cette pollution.
On va remettre bon son normal décollage. Le satellite télécom 2D a été acquis par la station de Artsebichuk.
Trajectoire est nominale. Fonction du premier étage.
Voilà. Fin de fonctionnement du premier étage.
Séparation premier étage et deuxième étage. Allumage du deuxième étage. Tous les paramètres bord sont normaux. Acquisition du lanceur par la station de Natal.
Régime turbine 60 700 à 750.
Top, H0 moins 1 minute. Fin des propulsions du troisième étage. Séparation de la mini Spella. Position du satellite Italsat par la station Malindi. Séparation télécom 2D.
Donc, de la mission d'Ariane en ce qui concerne la mise à poste de ces deux satellites. Et maintenant, donc, c'est le tour de la station.
Et que sait-on des tirs de fusée, avec tout le carburant et tous les produits qui sont brûlés au décollage ? Réponse de Jacques Blamont, conseiller scientifique du directeur général du CNES, le Centre national d'études spatiales.
Les fusées à combustible solide fonctionnent avec des chlorates ou perchlorates. Et lorsqu'ils brûlent, il y a du chlore qui est émis dans l'atmosphère. Or, on sait bien que le chlore joue un rôle très important dans l'équilibre de l'ozone dans la stratosphère. Donc, on a incriminé, par exemple, les tirs d'Ariane, où il y a des quantités de l'ordre de 500 tonnes de propergol solide qui sont brûlées par tir. Mais il y a 6 ou 7 tirs par an. Et je ne crois pas que les quantités totales jouent le moindre rôle dans la pollution stratosphérique qui, elle, est causée par des phénomènes de plus grande ampleur, comme les incendies de forêt, qui créent beaucoup de chlorure de méthyle, et incendies de forêt en particulier dans l'hémisphère sud, en Afrique, en Madagascar, et d'autre part, des produits comme les chlorofluorométhanes qui ont été interdits, mais il en existe tout de même encore, il y a tout de même encore des sources de chlore dans notre civilisation. Donc je crois que c'est un faux problème.
Un point de vue partagé par Alain Pompidou, un professeur à la Faculté de médecine de Paris, membre de l'Académie des sciences et coordinateur d'un groupe de travail de l'UNESCO pour une éthique de l'espace.
Au jour d'aujourd'hui, ces débris réalisent une sorte de pollution de l'espace extra-atmosphérique. Et beaucoup plus que la pollution chimique, qui est tout à fait négligeable, liée aux lanceurs, c'est véritablement la pollution par les débris qui pose un réel problème. Et ces débris, on les suit. Il y a à l'heure actuelle entre 2000, 2500 tonnes, 3000 tonnes de débris qui sont dans l'espace extra-atmosphérique. Sur ces 3000 tonnes, il y en a 5% qui sont liés à des satellites, mais 95% sont des petits débris qui ont entre moins de 1 et 10 cm. Vous avez 10 000 débris de 10 cm, vous en avez 200 000 qui sont compris entre 1 et 10 cm, et vous en avez 35 millions qui ont moins de 1 cm, mais le problème, c'est qu'un débris de moins de 1 cm, il a une vitesse relative qui est de l'ordre de 12 km par seconde. Donc, effectivement, il représente une menace pour les autres objets qui sont mis en orbite autour de la Terre. Alors ça, c'est une véritable préoccupation aujourd'hui, puisque l'espace est le patrimoine commun de l'humanité. Il est absolument indispensable de permettre un accès à l'espace pour toutes les puissances spatiales et au bénéfice de tous ceux qui vont utiliser les technologies spatiales. Et si on y prend garde, eh bien ces débris vont représenter un blocage pour l'accès à l'espace extra-atmosphérique. La conquête spatiale est source d'enjeux considérables, tant sur le plan de la connaissance que sur le plan de l'économie, c'est-à-dire des financements. Et effectivement, de façon à obtenir les financements nécessaires, les grandes puissances spatiales, d'abord ont fait rêver et ensuite ont demandé des moyens. Et pour obtenir des moyens, il fallait à la fois des grandes ambitions scientifiques et puis il fallait du retour sur investissement industriel. Les grandes ambitions scientifiques, on les aura toujours, Dieu merci, et là, il n'y a pas véritablement de problème éthique puisqu'il s'agit de la connaissance et que c'est une connaissance qui ne menace pas l'individu. Néanmoins, en matière économique, étant donné les coûts de l'accès à l'espace, les budgets ont été difficiles à trouver. Et à ce moment-là, l'objectif était de faire mieux et moins cher, hein? Better, smaller, cheaper, comme disaient nos amis américains. Et à ce moment-là, bien évidemment, les grandes puissances spatiales ont été conduites à limiter les coûts des lancements et donc à ne pas se préoccuper de l'élimination des débris. Donc on était dans un vide total, on peut même dire un vide sidéral en matière de gestion des débris spatiaux.
Jacques Blamont.
Nous avons à l'heure actuelle quelques dizaines de millions de débris en orbite. Est-ce que c'est un problème grave ou pas grave? Alors, il faut se rendre compte qu'ils sont distribués selon des orbites particulières, par exemple sur les orbites polaires, et que là, ils créent un danger pour un certain nombre de satellites qui sont importants pour l'étude de l'environnement et aussi pour les affaires militaires. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire contre les débris qui sont déjà en orbite? Il n'y a pas jusqu'à présent de solution qui a été apportée. On a proposé de les pousser, de modifier leur orbite par laser. Je crois que ça a été considéré comme une plaisanterie. Du moins, à l'heure actuelle, il n'en est pas question. Donc les débris sont là, il faut vivre avec. Les agences spatiales ne se rendaient pas compte qu'il y avait un problème. Maintenant, le problème est posé. Naturellement, la première chose à faire, c'est d'empêcher qu'on en crée de nouveaux. ou le moins possible du moins. Et pour ça, il y a un certain nombre de mesures que l'on peut prendre, en particulier sur le comportement des derniers étages.
Fin des propulsions du troisième étage.
Des mesures pas toujours faciles à prendre au niveau international. Commentaire d'Alain Pompidou.
Le problème est difficile parce que il faut que toutes les puissances spatiales se mettent d'accord pour limiter la production de débris. En effet, il est impossible d'utiliser un grand filet à papillon pour ramasser les débris dans l'espace extra-atmosphérique. C'est hors de question. Et puis, c'est complètement utopiste. En revanche, limiter la fabrication de débris ou la libération de débris au moment où la fusée libère des satellites, alors ça, c'est possible, mais ça a un coût. Et le coût, il est de 10 à 15% en plus du coût du lancement. Au jour d'aujourd'hui, les grandes puissances spatiales sont en compétition les unes avec les autres, puisque les fabricants de satellites et les utilisateurs des satellites cherchent à obtenir des lancements à des prix qui soient concurrentiels. Et donc, si tous les pays impliqués dans les lanceurs ne prennent pas les mêmes dispositions, s'il n'y a pas harmonisation des dispositions, il y aura des distorsions de concurrence. Si bien qu'au jour d'aujourd'hui, il existe une agence internationale de l'espace qui est susceptible d'engager la concertation de façon à ce que les différentes puissances spatiales s'engagent dans une limitation de l'émission de débris au cours des lancements. L'espace extra-atmosphérique est patrimoine commun de l'humanité et il faut faire en sorte que l'être humain puisse y avoir accès. Or, les débris empêcheront à terme l'accès à l'espace extra-atmosphérique. Dans ces conditions, je pense qu'il y a une interrogation éthique et c'est la raison pour laquelle l'Agence spatiale européenne s'est interrogée sur les finalités, les motivations de la conquête spatiale et qu'elle a lancé avec l'UNESCO en particulier une réflexion qui s'est située dans le cadre du Comité mondial d'éthique de la science et de la technologie de l'UNESCO. Alors, sur le plan des recommandations proprement dites, première recommandation, faire en sorte que les instances de contrôle de la sécurité soit indépendante des instances de contrôle de lancement pour chaque État qui s'est engagé dans la conquête spatiale, pour chaque puissance spatiale. Ça, c'est un premier point. Alors, deuxième aspect, le contrôle de la libération de débris dans l'espace. Alors là, ça coûte très cher. Ça coûte très cher parce qu'effectivement, au moment où le lanceur libère les satellites, il y a une sorte de pulvérisation de débris, pas considérable, mais de débris de toute taille. Et là, il faut prendre des mesures qui sont des mesures très techniques, des mesures de renforcement des systèmes de largage des satellites et qui soient destinées à éviter la libération de débris. Donc je pense que là, il y a véritablement une concertation avec des normes, des standards à respecter et qui s'appliquent à tous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors il y a un point qui est intéressant, c'est le cas de la station Mir. C'est un très gros débris qui a été ramené sur Terre en passant à travers la couche périplanétaire et que là, la station Mir s'est désintégrée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il me semble que c'est un succès sur le plan de la communication totalement transparente et sur le plan de la gestion du risque dans la mesure où la station Mir a pu être amenée jusqu'à l'espace circumterrestre où elle s'est dissociée en quelque sorte et que très peu d'éléments de la station Mir n'ont été répertoriés au niveau de la planète Terre. Et donc je crois que là, toutes les précautions avaient été prises, il y a eu une bonne communication, les médias ont communiqué en étant correctement informés, il n'y a pas eu d'alarmisme et finalement les conséquences sont absolument négligeables. Une autre recommandation qui me paraît importante, mais qui est un peu plus technique parce qu'elle est d'ordre juridique, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'il y a une ambiguïté entre l'État qui lance la fusée, en quelque sorte, l'État qui est propriétaire du satellite et les clients. Et qu'aujourd'hui, il est indispensable, alors ça c'est un travail de juriste, hein, de bien identifier la responsabilité des uns et des autres, de telle façon que, sur le plan des coûts, on puisse faire supporter les coûts à ceux qui sont responsables de la libération des débris. Et au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas si celui qui est responsable de la libération des débris, c'est celui qui a demandé à pouvoir profiter d'utilisation du satellite, c'est celui qui a construit le satellite, c'est celui qui a construit le lanceur, ou si c'est l'État qui a lancé le lanceur. Donc au jour d'aujourd'hui, il y a là encore un flou juridique qui doit absolument être pris en considération et qui doit conduire, là encore, à des mesures qui s'appliquent à toutes les puissances spatiales.
À peine a-t-on commencé à aller dans l'espace autour de notre planète que l'on a déjà généré une pollution dont on ne sait que faire et qui va poser un vrai problème aux générations futures. À tel point qu'il semble tout à fait urgent et nécessaire de convenir d'une éthique commune pour que nos comportements soient plus responsables. Mais pourra-t-on faire dans l'espace ce que nous n'avons pas pu faire sur Terre ?
Sur Terre, les accords internationaux sont extrêmement difficiles à élaborer. Pourquoi ? Parce qu'il y a une histoire, il y a un passé et il y a des territoires géographiques. Et en particulier, quand il n'y a plus de territoire géographique, quand on est dans les eaux extraterritoriales, à ce moment-là, c'est extrêmement difficile parce que ce sont des activités humaines. Et ces activités humaines, chacun considère qu'il a son autonomie d'appréciation et que les instances de régulation ne sont pas acceptables. Bien. Il y a un élément un peu différent, c'est que dans la conquête spatiale, elle est à l'initiative des puissances spatiales et à l'initiative des scientifiques et des ingénieurs. Et que là, véritablement, il y a une attitude d'appropriation de l'espace par la science et par la technologie. Et c'est là qu'on rejoint la préoccupation éthique, parce que s'il y a appropriation de l'espace par la science et par la technologie, s'il y a domination de l'espace par la science et la technologie, il est indispensable que ceci ne se fasse pas au détriment des générations futures. Et donc toute activité scientifique est bonne en soi, les applications peuvent être dévoyées, mais parmi les applications, il y a effectivement la nécessité de protéger les générations actuelles et à venir. Donc dans ces conditions, étant donné que l'espace est à la fois patrimoine commun de l'humanité, mais est aussi un territoire scientifique pour l'expérimentation, la Station Spatiale Orbitale Internationale est en fait un territoire d'expérimentation, à la fois pour l'homme et pour la biologie et pour un certain nombre d'activités dans le domaine scientifique et technique. À partir du moment où l'homme se positionne, non plus comme Icare avec la volonté d'aller se rapprocher du Soleil, mais avec la volonté de maîtriser en quelque sorte l'espace qui l'entoure, et à ce moment-là, il doit se plier à des règles éthiques. Et parmi ces règles éthiques, indépendamment du respect de la dignité des personnes, de l'équité et de la solidarité, il y a la solidarité vis-à-vis des générations futures. Et donc, il me semble que les scientifiques et les ingénieurs doivent avoir une préoccupation éthique qui les amène à conforter la position des juristes.
Ainsi se termine Orbite autour de la Terre, un fréquence terre d'Arnaud Jouve, réalisé par Fadi Matar sur un mixage d'Assia Ralid. Bonne semaine à tous.
Voilà, reportage produit en janvier 2002. Et mauvaise nouvelle, puisque on note depuis lors une croissance continue des débris spatiaux. Il y avait environ 9000 objets suivis par les réseaux de surveillance spatiale. On en compte aujourd'hui 40 000. Sans compter les petits débris de moins de 1 cm qui seraient plusieurs centaines de millions et qui sont tout aussi dangereux, vu leur vitesse de déplacement. Une augmentation due au déploiement des milliers de satellites qui augmentent mécaniquement le risque de collision. Alors des initiatives sont prises pour lutter contre la pollution spatiale, des règles plus strictes pour se débarrasser des satellites en fin de vie, des programmes de nettoyage et l'amélioration de la surveillance orbitale. Mais vu l'ampleur du problème désormais, la situation reste préoccupante si des mesures plus ambitieuses ne sont pas adoptées. Voilà pour l'émission d'aujourd'hui que vous pouvez retrouver, je vous le rappelle, sur notre site alternantefm.fr. On termine en musique, en guise de consolation, une chanson qui aborde le thème du jour. On fait appel à un groupe anglais qui s'appelle Wang Chung, qui a produit en 1983 cette chanson intitulée Space Junk, débris de l'espace. À la semaine prochaine. Drifting on the spaceway by the Beetlejuice Hotel. Mapping out constellations of the place I know so well. Sifting through the system for the beast that knows my name. Endlessly I list them in the master game. Welcome to my world. Welcome to my only world. Let us fill space junk. But your words are coming through. I'm riding on space junk. And it's bringing me to you. Space.